Occitanie, terre d'extase. Extase, parce qu'il nous arrive à tous d'être à ce point admiratif d'un site naturel, d'un édifice, d'une œuvre d'art, que nous nous en oublions nous-mêmes. Bonjour, chers auditeurs. Dans cette nouvelle édition, enregistrée dans les Pyrénées ariégeoises et dans notre studio de Toulouse, émission consacrée au Salon du Livre dans un joli village qui se nomme Seix, S-E-I-X. Nous vous proposons d'écouter le témoignage de ses organisateurs et de deux auteurs. Seix, cette bourgade du Couserans, située dans la vallée du Haut-Salat, compte quelques 700 habitants. La vie culturelle et associative y est très animée. Son Salon du Livre forme aujourd'hui pour nous le point de départ de quelques pistes de réflexion sur le sens de la rencontre entre les lecteurs, le livre, ses auteurs et ses éditeurs qu'un tel événement rend possible. De très nombreux salons, festivals et fêtes du livre ont lieu chaque année en Occitanie. Ceux-ci s'adressent à un large public dont le degré d'intérêt pour ce type d'événement semble plutôt stable, malgré de récentes fluctuations au cours, bien entendu, des dernières années. Outre le plaisir de le visiter, le Salon du Livre de Seix et les Salons du Livre en général nous offrent maintenant, dans cette émission, l'opportunité de quelques réflexions sur les conditions de cette rencontre qu'un tel événement rend possible entre les lecteurs, le livre, ses auteurs et les éditeurs. À quoi donc sert vraiment un Salon du Livre ? Les uns disent qu'un salon du livre est un excellent moyen de célébrer à la fois l'écriture, de rassembler les personnes passionnées de littérature, mais également de partager et de faire découvrir de nouveaux styles et de nouveaux types de livres. D'autres ajoute qu'un salon du livre est un événement de vente qui se concentre donc sur la vente de livres. Les salons du livre peuvent être des événements autonomes ou ils peuvent accompagner un événement plus important, auquel cas ils peuvent être thématiquement liés à l'événement. Ces événements sont souvent un excellent moyen de se procurer un large assortiment de livres à des prix raisonnables et offrent parfois l'occasion de rencontrer des auteurs, des personnes partageant les mêmes intérêts et des éditeurs. Un salon du livre se tient généralement dans un très grand espace comme un champ ou une salle de concert ou une salle polyvalente pour accueillir le stock des différents vendeurs qui y assistent. Les vendeurs paient généralement des frais minimes pour l'espace de vente qui peut inclure une table, un éclairage et un espace verrouillé la nuit. Et dans certains cas, les vendeurs paient également un pourcentage de leurs bénéfices à l'organisation de l'événement. Dans l'industrie de l'édition, les salons du livre se tiennent toute l'année dans des lieux variés et sont souvent associés donc aussi à des salons professionnels. Ces événements donnent aux gens de l'industrie de l'édition une chance d'interagir avec d'autres, de voir ce que d'autres éditeurs proposent et de rencontrer des auteurs. De nombreuses foires du livre sont simplement ouvertes toute la journée avec une liste d'événements organisés comme des conférences et des séances de dédicaces répertoriées dans un programme ou à la porte. Il n'est pas rare qu'un salon du livre ait un thème. C'est le cas pour les salons du roman policier, des salons de littérature de jeunesse ou encore de la bande dessinée. Le salon forme donc un véritable trait d'union entre différents acteurs du livre. À quelques pas du flot tumultueux du Salat, le salon de Seix s'installe sous des barnums. Écoutons la réaction spontanée de deux organisateurs, Marie-Christine Leroux et Kevin Dugas, tous deux membres de l'association Le Pied de Biche, maîtresse d'œuvre du salon de Seix. Vous entendrez après eux les écrivains Robert Redeker et Patrick de Merler. Les auteurs ont toujours une foule de choses intéressantes à confier aux visiteurs. Cela se comprend. Quand l'auteur a travaillé pendant des mois ou des années à écrire un livre, il a la tête pleine d'informations. Le visiteur ne doit donc pas hésiter à le faire parler. Bonjour Marie-Christine Leroux de l'association Pieds de Biche à Seixe.
Bonjour.
Nous sommes ici avec vous aujourd'hui, en ce dimanche ensoleillé, dans ce joli village ariégeois, pour parler de l'événement du jour, à savoir le Salon du Livre,
qui a lieu
pour la énième fois, grâce à vous et à quelques autres bénévoles.
Tout à fait.
Alors, Qu'est-ce que vous avez voulu faire cette année, particulièrement avec ce salon?
Alors, nous avons fait notre salon cette année, qui est en extérieur, avec le petit marché local de Seixe, des artisans locaux. Et nous nous sommes donc mis sous un barnum et nous aurons un temps super cette année, parce que l'année dernière, nous avions un peu la canicule qui a été un petit peu difficile. Mais voilà, donc ça s'est très bien passé ce matin. On nous avait eu beaucoup de monde. Tout le monde est bien heureux de participer à ce petit salon dans notre petit village de Seixe.
Combien d'auteurs?
Nous avions à peu près 26 auteurs, plus des éditeurs, artisans du livre, le cercle généalogique du Midi Toulousain.
Ouais.
Voilà, et tout s'est bien passé. On a eu pas mal de monde ce matin.
Ce matin déjà.
Et j'espère que cet après-midi, ça va continuer.
Voilà, nous sommes là à l'heure de midi, là, donc les gens sont à table, mais ils vont certainement revenir. Alors, quand on dit les gens, ce sont les habitants, évidemment, de Seixe, qui sont heureux de rendre visite aux auteurs, mais aussi tout le public toulousain et bien au-delà, des touristes.
Tout à fait, tout à fait.
Vous avez beaucoup de tourisme ici.
Ah, il y a quand même pas mal de touristes. Là, ils ne sont pas encore tous arrivés, mais je pense que oui, nous sommes toujours un village touristique.
Oui.
Il y a beaucoup de choses à voir. L'Ariège est magnifique.
Oui.
Donc, il faut visiter le village de Seixe.
Seixe qui a donc ce salon du livre notamment, mais aussi bien d'autres
des petites activités, bien sûr. Nous avons des marchés nocturnes, des soirées, la fête du village.
Surtout l'été. Quelque chose au presbytère, c'est ça?
Alors là, nous avons le jardin du curé, l'exposition des Estivales de la Gore, également. Il y a pas mal d'activités sur le village.
Voilà, village qui est traversé par un magnifique torrent,
le Salat.
Est-ce qu'il est aussi salé que son nom le suggère?
Ah, ça, je ne l'ai pas trop goûté, mais je pense que non, il doit avoir de la bonne eau douce.
Oui, de la bonne eau douce, putain. Eh bien, grand merci, Marie-Christine.
Je vous en prie, c'est avec plaisir.
Bravo encore pour ce salon.
Merci beaucoup.
Oui, alors, Marie-Christine, petit complément d'information aussi, qui n'est pas sans importance, concernant deux choses. Le Salon du Livre et son côté, avons-nous dit, atypique.
Tout à fait.
Et puis, on en parlera après, la transhumance.
Ah oui, alors au mois de juin, nous avons une superbe transhumance. Il y a beaucoup de festivités, nous avons... beaucoup d'artisans, enfin c'est une fête locale qui est très très appréciée de tout le monde, nous avons énormément de monde. Donc je convie tout le monde à venir voir cette transhumance qui en général se déroule début juin ou dans la deuxième quinzaine, mais toujours au mois de juin.
Du temps qu'il fait.
Tout à fait, oui.
Mais quand on dit transhumance, on voit des troupeaux traverser
la ville. Ah oui, nous avons des troupeaux, des chevaux, des moutons, des vaches, enfin, toutes sortes.
Il y a réellement une transhumance conduite par
tout
des
à
bergers,
fait, oui.
Des bouviers.
Tout à fait, nous pouvons même, ils invitent le public à les suivre, à monter dans les estives.
Voilà.
Non, il y a des repas, c'est très, très convivial et beaucoup de monde.
Oui, alors merci pour ça et certainement que nos auditeurs vont être enthousiastes parce que ça fait une belle sortie de nature,
un
bain de, et aussi de tradition, de culture. Et puis alors, pour revenir à ce qu'on disait en premier, là, à savoir le côté atypique du salon que vous avez organisé cette année, qu'est-ce qu'on peut dire de plus à nos auditeurs ?
Eh bien, c'est un salon donc, qui se déroule dans notre joli village de Seix. C'est un petit salon très convivial avec pas mal d'auteurs, très sympathique. Voilà, ça se déroule dans une ambiance bon enfant. Et voilà, j'invite tout le monde à venir à ce salon.
Eh ben, je crois qu'ils vous entendront et qu'ils viendront. Merci.
Ben, je vous remercie.
À bientôt. Bonjour Kevin.
Bonjour.
Nous venons d'entendre Marie-Christine qui nous parle de vos actions culturelles à tous au sein de l'association.
Mm-hmm.
Ah, c'est ça.
C'est
et
ça.
Vous en faites partie aussi.
Oui, je suis le trésorier de l'association.
Trésorier de l'association.
Le pied de biche.
Le pied de biche. Alors, un pied de biche, c'est fait pour ouvrir. Pas pour forcer, mais enfin, tout de même, il y a une certaine énergie.
Bien sûr, c'est le nom de l'association, c'est fait pour. C'est le, vu qu'on est dans un événement artistique et culturel, c'est pour ouvrir les esprits.
Exactement.
Donc c'est un petit jeu de mots.
Oui, mais c'est un
rapport à l'ouverture de l'esprit.
Utile, voilà. Et alors, vous, précisément, qu'est-ce que vous faites dans cette association? À part le fait d'être trésorier, évidemment, vous tenez les comptes.
Bien sûr, oui, non, à part les comptes, on fait la promotion donc, d'événements culturels et artistiques.
Oui.
On vient notamment d'ouvrir un espace culturel en face de l'EHPAD à Seix, donc au 29 avenue de la Baraque. Le but de cet espace, c'est de, notamment de promouvoir un peu les artistes locaux, donc ils peuvent exposer, qui ont chacun un petit espace
ils
dans le local.
Des peintres surtout ou bien...
Alors en ce moment, on a des sculpteurs, enfin on a un sculpteur, on a un dessinateur,
oui.
Notamment un dessinateur graffeur, je pourrais dire.
D'accord, oui.
On a eu, qui compte revenir à mon avis, une dame qui fait des mandalas par exemple sur des supports bois. Enfin, on a vraiment tout un panel de supports artistiques différents. Le but, voilà, étant de promouvoir l'artistique et la culture.
Auprès du public,
bien sûr.
Et des touristes.
Et autour de ça, dans Seix, on organise plusieurs événements. Là, cette année, on va refaire pour la troisième année consécutive, on va refaire Halloween. On fait Halloween pour les enfants, année pour les adultes aussi.
Ouais, ouais.
Également, fin octobre, sûrement.
Ah,
okay. Voilà, donc le salon du livre aujourd'hui.
Oui, voilà. Très bien, oui. Il a changé un petit peu de... On va dire, non pas de contenu, parce que ce sont des auteurs, mais déjà de lieux,
oui.
Et puis peut-être aussi d'ambiance, du coup. Non.
Oui, on a voulu quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus festif. Déjà en extérieur, effectivement, ça permet, voilà, déjà de respirer un peu plus, de brasser un peu plus de monde et d'être peut-être plus inséré dans la communauté, dans le village.
Oui, parce qu'effectivement, les habitants sont venus, je crois, plus longtemps.
Plus spontanément, oui.
Oui, peut-être.
Beaucoup plus spontanément, oui.
D'accord. Et alors, le futur du pied de biche maintenant, futur immédiat, c'est quoi?
Futur immédiat, pour le moment, on organise plusieurs événements. On va en organiser un prochain le 10 août, donc sur le terrain dont je parlais, au 29 avenue de la Baraque, on va organiser un prochain événement. Toujours dans l'événementiel, toujours dans la culture.
C'est ça, ouais.
Voilà. Des événements à suivre et à rester en communication sur Facebook notamment.
Ça, offrir à votre public s'élargir d'année en année, je suppose, y compris donc les visiteurs d'ailleurs, Toulouse.
Notre but étant aussi de promouvoir un peu hors saison, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le village en pleine saison, mais hors saison il se passe un peu moins et nous on aimerait bien prendre justement pouvoir proposer d'autres événements hors saison, c'est-à-dire entre peut-être mars et juin, et puis après entre septembre et novembre.
C'est toujours difficile hein, ça, de désaisonnaliser quelque chose.
Oui, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les locaux. Déjà, on a un beau réseau avec les personnes qui
sont là.
Voilà, et c'est ce qu'on aimerait proposer aussi. Les touristes, bien évidemment, ça nous fait vivre, ça fait vivre le village, mais on aimerait proposer aussi aux locaux et aux locaux des autres villages des événements ici, sur place.
Et vous-même, pour finir, vous êtes aussi créateur, artiste
Moi, je suis musicien, Je suis musicien et auteur-compositeur-interprète,
Et auteur-compositeur-interprète, c'est pas mince tout ça, alors.
On essaye.
Votre instrument ou vos instruments?
Alors, je suis au piano, à la voix, et je compose sur musique électronique.
Ah, très bien.
Voilà, je m'appelle Alassane. Alassane, A-L-A-S-A-N.
Ah, c'est... D'accord.
Vous pouvez me trouver sur Facebook ou sur YouTube.
Alassane, merci. Merci Kevin. Merci Alassane. Alors.
Alassane.
Et oui, tu viens d'ouvrir les yeux sur ton chemin drapé de brume. Tu vois, le ciel n'est plus si bleu. Tes rires se changent en amertume. Tu cherches de l'air, tu cherches à fuir. Mais ce que tu respires est acide. Rien n'est plus clair, tu veux courir. Mais cette erreur te pousse au vide. Tu avais des rêves et des idées, mais ils t'échappent tels des grains. grain de sable passant entre tes doigts fragiles et se perd dans une mer de vase, et même l'amour te semble vain. Ce qu'on d'éphémère d'immensité, car on meurt toujours de la main.
Thank you.
Oui, alors nous avons un double plaisir cet après-midi. Le premier, c'est d'être sur le salon du livre de sexe en Ariège. Et le second, au moins aussi important, c'est celui d'être en compagnie du philosophe Robert Redeker. Et il est ici avec ses livres, mais il est aussi avec un livre particulier qui vient de sortir, qui est son dernier opus en date, qui s'intitule « L'abolition de l'âme ». Alors, ça nous paraît un sujet assez important pour s'arrêter un moment avec lui, en sa compagnie, pour qu'il nous dise aussi quel angle rédactionnel et philosophique il a choisi pour nous parler de cet état de choses que serait l'abolition de l'âme.
Oui, alors d'abord je dirais que c'est aux éditions du CERF et donc je remercie Jean-François Colosimo de m'avoir accueilli. La démarche que j'ai suivie part d'une sorte d'étonnement. La philosophie commence toujours par l'étonnement. C'est Aristote qui a dit ça.
Oui, oui.
Voilà, s'étonner, c'est commencer à philosopher par l'étonnement devant la disparition d'un mot, sa disparition dans le discours philosophique, d'abord, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, puis finalement de l'ensemble de la société, c'est la disparition du mot âme. Voilà. Pourtant, le mot âme a été le mot le plus, l'un des mots, et même le mot le plus important dans l'histoire de la philosophie. Sans doute le mot le plus souvent employé, mais dans la vie quotidienne, dans la cité, et même dans la civilisation dans son ensemble, ce mot était très très présent. Hein. Souvenons-nous que SOS, que l'on prend pour aujourd'hui pour sauver nos corps, oui. Ça veut dire sauver nos âmes.
Sauver nos âmes.
Ce qui en dit long sur le rapport à la mort d'abord, hein, et le rapport à la vie.
Oui.
Donc j'ai voulu chercher les racines de cette disparition et peut-être d'ailleurs
les causes aussi, oui.
Voilà les racines philosophiques,
oui.
Métaphysiques et les causes sociologiques, oui. Historiques. Voilà. Pourquoi ce mot a-t-il disparu et qu'est-ce que cette disparition dit de notre situation anthropologique, voilà. Et métaphysique. Alors pour moi, qui estime que l'âme n'est pas qu'un mot, mais une réalité, je pose la question suivante. Ne peut-on pas fermer la parenthèse d'une certaine philosophie, celle des années 60, 70, 80, et recommencer à philosopher, dire recommencer la philosophie à partir de la métaphysique.
Et partir donc d'une situation qui est une situation ancienne, avant la disparition de la notion d'âme.
Oui, alors j'ai beaucoup d'admiration pour le geste radical de Descartes,
oui.
de René Descartes, qui est une situation, un geste de recommencement, justement, de la philosophie. Oui. Descartes estimant que le nombre d'opinions diverses et l'erreur est très très grande, l'on dit un peu, estime Descartes, désormais n'importe quoi, on a perdu le critère même de la vérité, l'idée même de vérité, estime Descartes, est déconsidérée, discréditée, mais, nous dit-il, heureusement qu'il y a les mathématiques,
oui. Hein,
qui sont le refuge de la foi dans la vérité, et les mathématiques qui sont la preuve de la possibilité de la vérité. Bon, alors dans la philosophie actuelle, après la Seconde Guerre mondiale, la notion de vérité a subi le même discrédit, hein, de même que la notion d'essence. Et si l'on regarde l'histoire de la philosophie, l'on se retrouve aujourd'hui comme en 1635-1640, quand Descartes a écrit ces deux grandes œuvres majeures, qui sont des œuvres de recommencement avec la foi dans la vérité.
La foi est des preuves de l'existence de Dieu.
Également.
Quand même, voilà. Surprenante,
voilà.
Aussi.
Et donc si ce que je dis est très éloigné dans ce livre de Descartes, je crois que la démarche a quelque chose à voir avec celle de Descartes. c'est une foi dans la possibilité de découvrir la vérité par le raisonnement.
Est-ce que je peux commettre l'insolence de vous demander ce que c'est que l'âme pour vous ?
Pour moi, l'âme, c'est la réalité spirituelle de l'être humain.
Voilà.
Mais chez Descartes, c'était... Oui. Ce n'est pas très loin de ça.
Oui.
Il est vrai que je reproche dans ce livre à Descartes d'avoir trop intellectualisé l'âme, hein, c'est-à-dire d'avoir fait de l'âme uniquement la pensée.
Oui.
Que suis-je,
oui,
moi, oui, qui suis une chose, je suis une chose qui pense,
c'est-à-dire voilà, sensoriel. Et,
voilà,
oui,
voilà.
Oui.
Cela, c'est un reproche que l'on peut faire à Descartes.
Et alors, on a un auteur contemporain d'origine chinoise, mais académicien, François Cheng, qui a écrit, lui, sur l'âme, justement. Comment vous vous rapportez à son discours ou sa dissertation, disons plutôt ?
Oui, parce que ça n'est pas vraiment philosophique, c'est pour ça que je...
Non, je comprends, mais tout de même, c'est là, c'est là, c'est dans le monde.
Voilà. C'est l'âme, c'est dans le monde. Alors, ce n'est pas philosophique au sens occidental, traditionnel
c'est
du terme. C'est poétique.
Oui.
Alors, je ne vais pas ouvrir le livre devant vous, et je ne veux pas entièrement ôter le suspense, mais à la fin du livre, je demande quels sont les chemins qui mènent à la possibilité de retrouver l'âme.
Oui.
Et alors c'est là que nous rencontrons votre ami Cheng, et parmi ces chemins, il y a la poésie.
Ça, c'est tout à fait pour me faire plaisir, la poésie. Et sous quelle forme, alors ?
Alors, la poésie, c'est... à mes yeux, dans la poésie, il y a toujours quelque chose de mystique, oui, au sens où elle est, où le mot... on est alors hors linguistique, et hors de cette science qui s'appelle la linguistique. Je dis donc quelque chose dans un contexte tout à fait différent, où le mot... et la présence des choses.
On a dit aussi que la poésie serait une philosophie sans système. Vous êtes d'accord avec cette remarque ? Elle mérite d'être commentée.
Alors, une philosophie sans système, à qui peut-on penser ? Je crois qu'à René Char, peut-être, ou à Philippe Jacotet.
Par exemple.
Alors, c'est une...
Merci pour ces beaux exemples.
Philippe Jacotet, c'est une philosophie de la présence. Mais,
la présence au monde.
Voilà, mais il n'y a pas de concept.
Il n'y a pas de système.
Il n'y a pas de tissu conceptuel, systématique. Mais c'est chaque mot. Dans chaque mot, chez Jacotet, le monde ouvre sa présence au lecteur.
Belle conclusion. Grand merci à vous, Robert Redeker.
C'est moi qui vous remercie.
sur le salon du livre de Sexe, nous avons aussi le plaisir de rencontrer de nouveau l'auteur Patrick de Merler, que nous avons rencontré il y a quelque temps à propos de sa biographie de Louis Germain, l'instituteur d'Albert Camus, qui d'ailleurs a été primé, cette biographie, d'un prix aux feuilles de la Malpère. Mais aujourd'hui, parlons plutôt de son dernier ouvrage intitulé « La nouvelle Amazonie » sur un sujet nouveau pour lui, mais il m'a dit tout à l'heure que de toute façon tout ce qu'il écrivait était toujours nouveau pour lui, ce qui est une bonne chose très certainement. Et là, il s'agit, on peut le dire, je crois, après avoir vérifié auprès de lui, qu'il s'agit de... il s'agit en fait des peuples racines, des peuples premiers, toutes ces cultures qui sont en voie de disparition parfois, et qui pourtant servent de réservoir de pensée et de civilisation, si l'on veut bien, à notre époque. Alors, Patrick de Merler, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire ?
Oui, alors je suis d'autant plus d'accord que... la culture amérindienne a servi de base à la construction de ce roman qui se situe dans 100 ans. Et donc, vous avez fort justement parlé de réservoir de culture. Donc, la nouvelle Amazonie, pourquoi Amazonie ? Parce que le monde que je dépeins, qui se situe après l'effondrement de la technologie, dans 100 ans, on va dire dans 100 ans, est gouverné par des femmes, des Amazones, et une reine, donc un système politique plus proche de la féodalité que de la démocratie, il faut bien le reconnaître, bien que les aspirations des gens soient...
Tout de même la liberté individuelle. Soit
entendue par l'élite dirigeante. Ouais. Laquelle élite dirigeante n'a qu'un seul souci, c'est de ne pas retomber dans les errements du passé et de progresser, aussi bien même technologiquement, mais toujours avec le souci du bien commun.
Mais ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que l'élite ou les élites dirigeantes ont un souci en tête, c'est de diriger. Et de ne pas perdre cette direction. Alors qu'en est-il des vôtres ?
Ah, il en est exactement la même chose, hein, parce que la nature humaine reste la même. Ouais, je pense ça. Que les sentiments humains, quels qu'ils soient, hein, que ce soit l'appétit du pouvoir ou la compassion, la générosité comme l'avarice, etc. Oui, ça devait déjà exister du temps des hommes préhistoriques et perdurera. Et c'est pour ça que je milite toujours pour qu'il n'y ait qu'une seule race, c'est la race humaine, partout et en tout lieu.
C'est un genre, plutôt
voilà,
qu'une race, d'ailleurs.
Voilà, oui, voilà, le genre humain. Le genre humain, au niveau des sentiments, n'a absolument pas évolué, n'évolue pas. Tout autour de nous, tout évolue, mais pas ça. Enfin, voilà.
On dit... l'être humain ne change pas. Après, c'est une histoire de mécano.
Ah oui, peut-être, oui, oui.
Et voilà. Alors, ce livre, qui est ambitieux de par son orientation, telle que vous venez de la résumer, il a été reçu comment par vos premiers lecteurs ? Que ça doit tout de même remuer.
Alors, comme je le dis en présentation, c'est au lecteur de se faire une idée si ce monde futur, c'est une utopie ou une dystopie, puisque nous sommes versés dans l'acceptation et même la suprématie de la nature. D'ailleurs, mon royaume, là, qui se situe entre la France et l'Espagne, donc là, que j'appelle la Francie et Ibérie.
Très bien.
Voilà.
Alors, vous dites...
excusez-moi de vous interrompre, j'ai pas terminé ma phrase. Donc, je voulais dire que l'arbre, le cheval et l'abeille sont les emblèmes de ce royaume.
Très bien. Ouais.
Et donc,
l'abeille étant un emblème qu'on a connu.
Oui, aussi, d'accord. Mais avec d'autres connotations. Voilà,
c'est pour ça que.
Oui, oui. Non, mais là, la... oui, c'est voilà. Vrai, c'est vrai. C'est vrai. Après, ce roman comporte beaucoup de personnages. Hein. Oui, il y a énormément de personnages, et notamment deux personnages principaux, Jacquemart et Longue Jambe, puisque les femmes sont baptisées à leur puberté, les jeunes filles sont baptisées d'un nom.
Inspiré de quoi ?
Alors inspiré soit de leur morphologie, soit de leur caractère, un peu comme faisaient les Indiens Lakota en leur temps, voilà.
Oui.
Hein, c'est pour ça qu'on a
Flèche allègre.
C'est ça. Voilà. Là, on a Longue Jambe.
Oui.
Oui, notamment. Et pourquoi elle s'appelle Longue Jambe ? Parce qu'elle aime beaucoup marcher. Voilà, elle marche. Elle se déplace en marchant. Alors que Jacquemart se déplace à cheval, lui. Un cheval de Mérens, qui est un personnage du roman. Le cheval est un personnage. Alors il ne parle pas, bien entendu, parce que les chevaux ne parlent pas. En revanche, il écrit, parce qu'on sait ce qu'il pense. Hein.
Ah. Alors, vous parlez de, en fait, une opposition entre utopie et dystopie. Alors, puisque ce sont deux mots grecs, que le premier veut dire nulle part et que le deuxième veut dire mauvais endroit, est-ce qu'il n'y aurait pas à forger un autre vocable qui serait utopie, c'est-à-dire le bon endroit ?
Ah oui, c'est une bonne idée. Je ne connaissais pas le mot d'ailleurs, merci de me le souffler.
Non, on peut le faire.
Pierre-Jean,
c'est... on peut tout fabriquer.
Oui,
c'est l'avantage.
Utopie, oui.
Utopie, c'est comme on dit, je ne sais pas, euphorie. Euphorie qui amène la joie, eh bien, utopie, ce serait le bon endroit.
En pédologie, il y a eutrophe.
Ah oui, voilà. La pédologie, c'est important, là, le sol. Là.
Oui. Ben oui, oui.
Voilà. Eutrope.
Et donc, la caractéristique de ce roman, c'est que après l'effondrement de la technologie, la mémoire qui était contenue dans les systèmes informatiques a disparu. Et 50 ans après, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. On a perdu 50 ans d'histoire. Mais mon personnage principal, Jacquemart, a bénéficié de la prévoyance de son bisaïeul, de son arrière-grand-père, qui lui avait dit « Oh, mais un jour, tout ça disparaîtra. Le papier est beaucoup plus important. Ah, » voilà, parce que... contrairement à l'idée reçue, le fait d'utiliser du papier ne détruit pas la forêt. Mais ça, c'est une idée reçue qu'on nous fait passer. Ça encourage à planter, surtout à planter des arbres. Parce qu'un deuxième avantage, c'est que ça fixe le carbone.
Oui, exactement.
Puisque c'est quand l'arbre est jeune qu'il fixe du carbone, puisqu'il est en croissance. Donc il accumule du bois, donc du carbone. Voilà. Hein, donc, utiliser du papier ne détruit pas la forêt, non. Et donc, nous revenons au livre papier, alors qu'il avait disparu, qu'il n'existait plus, puisque...
Qui est d'ailleurs, excusez-moi, là c'est moi qui vous coupe, du coup, sur la couverture, on voit le titre « La Nouvelle Amazonie ». Il y a un tiret entre « Nouvelle Amazonie », ça suggère qu'il s'agit d'un territoire comme il y a... néo-zélandais, ou comme la Nouvelle-Zélande, ou Nouvelles Hébrides, etc. Ouais. Et en sous-titre, alors, Longue Jambe, et on a compris que c'est un prénom.
C'est un prénom.
D'une jeune femme qu'on voit agenouillée, non assise en tailleur, au-dessus des monts. Elle a un horizon de montagne, très beau d'ailleurs.
Oui, c'est mon éditeur qui a choisi cette photo, qui me plaît beaucoup. Elle évoque, effectivement l'Amazonie, bien que mon roman ne se situe pas en Amazonie d'Amérique du Sud. Hein.
Et alors, si je peux me permettre, symboliquement, elle offre aussi un pendant avec ce fameux tableau de Caspar David Friedrich, où on voit un monsieur debout, un peu en frac, en costume, en queue de bille noire, comme ça, regarder le lointain, et on sent bien que c'est pour illustrer un peu le concept de volonté de puissance de Nietzsche, justement. Et là, on a au contraire, là, presque le pendant de cette image du 19e siècle, mais qui est une image de douceur, de sagesse, avec quelqu'un qui regarde de côté, vers la gauche, comme si elle attendait autre chose encore. Donc, symboliquement, très réussi la couverture.
Non, merci, merci beaucoup. Effectivement, cette couverture, cette illustration
plaît.
Inspire de la quiétude,
oui,
voilà, de
ça.
La quiétude, une certaine assurance dans l'avenir, puisqu'elle regarde au loin,
oui.
Et donc vers plus tard.
Et ce qu'il faut dire, Patrick de Merler, c'est aussi que ce roman a été publié aux éditions Lazare et Capucine.
Oui, voilà, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est pas le hasard et Capucine. C'est...
Non. Capucine. Vous croyez au hasard, vous?
Ah oui, bien sûr,
voilà,
bien sûr. Bien qu'on dise qu'il n'y a pas de hasard, mais malgré tout.
C'est un point de départ, pas un autre débat.
Oui, voilà.
D'accord. Merci Patrick de Merler.
Merci Pierre-Jean Brassac, merci beaucoup.
Première journée, le mercredi 16 avril de l'an 46 PS. 1. Où les bûcherons découvrent longues jambes. Elle avance d'un bon pas vers le crépuscule, s'enfonçant toujours plus profond sous les ailes noires de la sapinière. Le chant des oiseaux diurnes l'avait accompagnée tout l'après-midi, et celui du coucou jusque tard. Il s'est éteint lui aussi, laissant place au règne des oiseaux de nuit. Une chevêche a traversé le sentier sans bruit, dans le léger froufroutement de ses rémiges. Longue jambe a cherché à repérer l'arbre où la chouette s'est posée, sans succès cependant. Habituée aux rudes montées et malgré sa fatigue, son allure ne faiblit pas. Elle doit atteindre la cabane avant la nuit. Celle qui figure sur la carte, du moins celle qui existait lorsque la carte a été publié. Rien n'indique la moindre modification du paysage depuis. La forêt semble intacte, préservée. Ni la densité des arbres, ni le couvert végétal n'ont été touchés. Parfois, le sentier se perd dans les fougères, faute d'être pratiqué. Longue jambe craint s'être égaré dans la pénombre du sous-bois entre chiens et loups. Les loups, justement, ceux des forêts et ceux du ciel, même hurlement. Les loups que plus personne ne contrôle. La cabane ne devrait plus être très loin. Longue jambe vérifie sa position après avoir consulté son altimètre barométrique. Rassurée, elle porte son attention sur les sons. Dans la nuit, la musique du vent s'amplifie et résonne dans les houppiers comme sous les voûtes d'une basilique effondrée. Le moindre souffle y va de sa berceuse, et s'il forcit, des craquements de branches en ponctuent la mélodie. Au loin, elle perçoit des bruits qu'elle reconnaît, des ronflements de machines. Des bûcherons travaillent encore malgré la nuit qui approche. Leurs yeux s'habituent à la pénombre, pense la jeune femme. La lumière laiteuse de la lune suffit donc aux hommes pour terminer leur tâche quotidienne. Depuis l'accident de son père, Longue Jambe préférerait ne pas entendre ses engins. Les moteurs qui trouent le silence s'imposent aux autres sons, masquant les bruissements, les tintements, les murmures, tous ces signes qui lui permettent d'appréhender la forêt, ses hôtes, ses mystères. Elle regrette de n'avoir pas emmené Belladone avec elle. Malgré l'âge avancé de la chienne, elles se seraient rassurées l'une l'autre.
Thank you.
Chères auditrices, chers auditeurs, cette émission va prendre fin. Merci de l'avoir écoutée. Au cours des trois pauses musicales, vous avez pu entendre successivement une chanson de l'auteur, compositeur et interprète Kevin Dugas, alias Alassane. Puis, pour préfacer l'interview de Patrick Demerler, c'était l'ouverture de Tabula Rasa du compositeur Arvo Pärt. Enfin, vous venez d'entendre le premier mouvement de la Sinfonietta du compositeur tchèque Leos Janáček. Nos remerciements à Marie-Christine Leroux, à Kevin Dugas, ainsi qu'à Robert Redeker et à l'écrivain Patrick Demerler pour son roman La Nouvelle Amazonie, paru cette année aux éditions Lazare et Capucine. Notre gratitude enfin à Léo Touroult qui, dans le studio de Radio Esprit Occitanie, a apporté tous les soins nécessaires pour que cette émission parvienne jusqu'à vous. Occitanie, terre d'extase. Extase, parce qu'il nous arrive à tous d'être à ce point admiratif d'un site naturel, d'un édifice, d'une œuvre d'art, que nous nous en oublions nous-mêmes.